l'été.
10h42 minutes dans le Point de Max. On a le plaisir de lui parler à tous les jours aux alentours de 10h40 pour cette semaine et la semaine prochaine. Souvent, on lui parle de politique internationale, mais là, ben, comme on se parle à tous les jours, on se permet d'aller jouer un petit peu ailleurs. Georges Mercier, analyste politique, est au bout du fil. Salut mon ami.
Salut Max. D'ailleurs, comme la politique internationale rattrape la politique nationale, on reste dans les mêmes eaux.
C'est vrai que souvent, tout est un peu interrelié. Puis d'ailleurs, on commence avec ça. Puis on a une belle brochette de sujets aujourd'hui. Là, on va aller jouer un petit peu partout. Mais on commence avec le ministre responsable du commerce Canada-États-Unis, Dominique Leblanc, et le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, qui pourrait, nous dit-on, présenter une entente à Donald Trump lundi pour obtenir son approbation pour éviter de nouveaux tarifs de 50%. Et là, ce matin, le Globe and Mail nous dit que la négociatrice en chef du Canada a comme lancé un petit avertissement aux États-Unis en disant que si on s'entend pas dans les prochains jours, ben là, les négos pourraient devenir pas mal plus tough, puis là, on pourrait pas contrôler tout le monde, puis là, il y aurait peut-être de la grogne au Canada, puis... Est-ce-tu vraiment une bonne stratégie à adopter d'essayer de jouer gros bras avec les États-Unis? Puisque moi, je le vois de même. Hein?
Écoute, moi, je t'avoue, Max, quand j'ai entendu cette nouvelle-là, ça m'a fait un peu grincer des dents parce que j'arrivais pas à comprendre le signal de faiblesse qu'on envoyait aux Américains. Parce que si on traduit en langage politique, là, ce que la négociatrice en chef a dit, c'est « Écoutez, si on n'a pas l'entente maintenant, on sera plus capable de contrôler notre monde. Donc, nous ne sommes pas un gouvernement, un État... » suffisamment fort pour être un partenaire crédible de négociation, parce que si on vous offre quelque chose, on n'est pas certain qu'on va pouvoir le mettre en application. Donc, c'est très curieux comme annonce. Ça, c'est une stratégie de négociation qui est très étrange, parce qu'on fait face à un géant. Ça, faut pas l'oublier. C'est dommage. Peut-être qu'on peut regretter que le Canada ne soit pas une économie de la même taille que celle des États-Unis. Mais le fait demeure que nous sommes beaucoup plus dépendants d'eux qu'ils ne sont dépendants de nous. Et là, ce qui va être intéressant de voir dans cette fameuse proposition d'accord qu'on présentera au président américain, c'est quelles concessions on va avoir fait. Parce que c'est ça aussi qu'on apprenait, c'est que le Canada était prêt à donner certaines choses aux Américains. Puis la question que ça pose, tout de suite, Max, c'est en contrepartie de nos propres concessions, est-ce que les Américains ne font que suspendre une menace? Donc, des droits de douane, ces fameux nouveaux droits de douane de 50% sur une série de produits qui ne sont pas encore en vigueur, d'ailleurs. Donc, est-ce qu'ils font juste suspendre leurs menaces ou ils nous donnent quelque chose de concret, par exemple, en limitant leurs droits de douane sur l'acier, l'aluminium et l'automobile? Et encore là, qu'est-ce qu'on est prêt à leur donner? Qu'est-ce qu'on assouplit? Et surtout, Max, quelles provinces on privilégie? Parce qu'il faut pas oublier que le Canada, contrairement à ce que Mark Carney veut nous faire croire depuis plus d'un an, c'est pas une seule économie, c'est une série de provinces avec des intérêts divergents. Donc, j'ai bien hâte de voir, moi, qui seront les perdants, parce qu'il va y avoir des perdants de l'offre canadienne aux Américains.
Pour l'instant, ce que je lisais dans la presse, c'est qu'on offrirait un compromis par rapport à la répartition des quotas laitiers sur le marché canadien. Mmh. Fait quand on parle de lait, là, c'est sûr qu'on pense beaucoup au Québec, mais sans toucher au système de gestion de l'offre. Fait que c'est un peu le compromis qu'on ferait. Puis, en échange, ce qu'on voudrait, c'est la réduction des droits de douane sectoriels sur l'acier et l'aluminium, notamment secteur automobile aussi. On travaillerait pour ce qui est de l'industrie forestière.
Donc, si je traduis, on assouplirait des mesures qui protègent d'ailleurs la gestion de l'offre, si on peut en discuter. Là, on dirait que c'est quasiment un objet de culte au Québec, parfois, comme si on ne pouvait jamais dire qu'il y avait des problèmes avec ça. Mais néanmoins, ça a une valeur politique et symbolique dans le contexte québécois, dans le contexte canadien. Donc, si ce que tu dis s'avère exact, Max, ça veut dire qu'on aura, en partie au niveau du gouvernement fédéral, sacrifier les intérêts québécois pour notamment les intérêts de l'Ontario. Bon, évidemment, on a des alumineries ici, ça peut nous aider aussi. On verra ce qu'on fait. On verra surtout si c'est suffisant, hein? Parce que le président américain en a contre la gestion de l'offre depuis longtemps. Il veut des concessions majeures de la part du Canada. Si c'est simplement ouvrir nos quotas, est-ce que ce sera suffisant pour le président américain? Ça, c'est pas clair du tout.
Est-ce que tu as l'impression que l'impatience va vraiment finir par monter? Puis j'allais dire au Canada, mais on peut garder ça au Québec. J'ai l'impression que Simonac, qu'on est doux envers Mark Carney, puis qu'il est encore, c'est quasiment encore une lune de miel avec Mark Carney, alors que je trouve qu'il nous offre pas grand-chose de si bon que ça, là.
Non, mais c'est une bonne question. Ça, jusqu'à quand est-ce qu'on va lui donner un chèque en blanc, essentiellement, si on va continuer à le considérer comme le messie, comme un sauveur? Parce que les concessions, on en a déjà fait beaucoup en Max. Juste pour le rappeler, là, l'abolition de la taxe sur les services numériques. Là, on a reculé devant les GAFAM récemment au niveau du CRTC. On a quand même promis 5 % de notre budget en défense, ce qui est une autre forme de concession envers les Américains. Il y a eu ces investissements-là pour sécuriser la frontière, pour endiguer une menace d'un trafic de fentanyl qui est à peu près inexistant. On a déjà donné beaucoup. Là, si on redonne aujourd'hui, c'est pas un signal de force qu'on envoie. Bon, évidemment, comment est-ce que ça va être perçu? Mark Carney est dans une situation parfaite, parce que s'il réussit, ah bravo, c'est le génie de Mark Carney. S'il ne réussit pas, ah, c'est le méchant Donald Trump avec lequel c'est impossible de traiter. Et tant aussi longtemps qu'on ne reconnaîtra pas que notre gouvernement peut avoir des torts, indépendamment des Américains, hein, ben, je tiens à dire que le Mexique négocie déjà avec les États-Unis depuis beaucoup plus longtemps que nous. Donc, peut-être qu'on n'a pas été aussi efficace qu'on le pouvait, c'est que notre rhétorique, parfois, par rapport aux Américains, n'est pas aussi bonne que ça. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne reconnaîtra pas, justement, que notre gouvernement a sa part de responsabilité, la lune de miel de Mark Carney risque de continuer.
Politique provinciale maintenant, Georges Mercier. Après le sondage léger d'hier, on en a un autre ce matin, Synopsis La Presse. Les chiffres qui sont très, très, très semblables, du moins pour les intentions de vote. Y a-tu d'autres trucs qui t'ont intéressé là-dedans?
C'est pas mal du pareil au même par rapport à hier. Le PQ se maintient, les libéraux déclinent, il n'y a pas d'effet fléchette. Si on veut résumer ces deux sondages-là, là. La seule chose qui est vraiment intéressante, c'est le score des conservateurs dans la grande région de Québec, ce qui devrait t'intéresser, c'est que là, on a une chance réelle de voir des députés conservateurs être élus à l'Assemblée nationale du Québec. Ce serait la première fois depuis le début du siècle, quand même, là. Donc, c'est pas rien comme le début du 20e siècle, ce qui est pas rien comme changement politique. Et là, ce que ça montre, c'est que les chances d'un PQ majoritaire se complexifient quand même en raison du fait que dans certaines circonscriptions, il y a des vraies luttes à trois. Moi, la question que je me pose, c'est qui va avoir une prime de l'urne? Puis je me demande si le vote pour le Parti conservateur ne serait pas sous-estimé de la même manière que le vote pour les républicains aux États-Unis sont sous-estimés. Je ne sais pas s'il y a un stigmate sur les conservateurs ou si au contraire, on est fier de dire qu'on va voter pour eux. Mais néanmoins, c'est peut-être de ce côté-là qu'on va avoir des surprises à la suite de l'élection.
Après son mini-pote avec Carl Carmoni, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui a joué au tennis avec le Québécois Alexis Galarneau, on dirait que depuis qu'il est revenu de vacances, Paul Saint-Pierre Plamondon travaille vraiment sur son image. Il veut qu'on retrouve l'image de bon gars qui est proche du peuple parce que on se le cachera pas. Oui, je pense que le Parti québécois a fait un excellent travail à l'Assemblée nationale, a été rigoureux avec sa petite équipe, mais reste que la grosse montée du Parti québécois qui l'a mené à mener vers les 40 % d'intention de vote à travers la province, c'était beaucoup lié à Paul Saint-Pierre Plamondon parce que les Québécois l'aimaient. Puis là, moi, j'ai dit à un moment donné que le PQ avait comme eu l'usure du pouvoir sans être au pouvoir. Puis on a comme commencé à moins l'aimer, Paul Saint-Pierre Plamondon. Puis on dirait que depuis qu'il est revenu de vacances, il est souriant, il joue au mini-pot, il joue au tennis. Est-ce que tu penses que c'est ça la stratégie de retrouver le Paul Saint-Pierre Plamondon qui a donc bien plu aux Québécois?
Ben, c'est une bonne question. Moi, écoute, Max, je sais pas si les Québécois sont un jour tombés en amour avec PSPP. Je pense qu'on est tombé en amour avec un parti qui était à peu près le seul réservoir de nos frustrations par rapport à d'autres partis. Puis, il faut quand même dire que lorsque le PQ a touché 36, 37, 38 dans les sondages, c'est dans un contexte très particulier où il y avait eu le scandale avec M. Pablo Rodriguez au niveau du Parti libéral du Québec. La CAQ, on savait plus trop on s'en allait où. Québec solidaire, n'en parlons pas. Donc, il y avait une conjecture particulière. Après, ce qui est intéressant avec PSPP, c'est que si on regarde le début de sa campagne, les péquistes, puis je veux pas faire un péquiste de moi, là, mais sont vraiment bons. Parce qu'il y avait deux gros problèmes. Il y avait cette apparence d'un chef saupolais, un peu aigri, qui prenait pas la critique, qui était très, très confiant de lui-même. Puis on sait que les Québécois, en général, on a de la misère avec les gens trop confiants, qui paraissent arrogants. Mais ce qu'on aime, c'est des chefs qui sont proches du peuple, qui ont l'air plus normaux, plus sympathiques. Donc, on travaille sur cette image-là, en faisant des vidéos de mini-pot, en allant jouer au tennis. Il a l'air souriant, il a l'air heureux de faire de la politique, il a l'air sympathique, essentiellement. Donc, on corrige un défaut, mais on corrige aussi une autre affaire. C'est que le plus grand problème du PQ, paradoxalement, c'est la promesse de la souveraineté, c'est la promesse de l'indépendance, dont on sait, le sondage léger nous le disait hier, que c'est pas une priorité pour bien du monde. C'est 8 % des Québécois qui jugent que la souveraineté et l'indépendance, c'est l'enjeu prioritaire. Et donc, depuis le début de la semaine, tu remarqueras, Max, que le message du PQ, il se concentre sur un bon gouvernement, du professionnalisme, être compétent. On a même envoyé une lettre aux anglophones du Québec pour tenter de leur tendre la main. Donc deux choses en même temps cette semaine. On montre un chef sympathique et au même moment, on change de message par rapport, on change de message tendanciellement là, par rapport à la souveraineté.
À l'international, Georges Mercier, ça continue de brasser Russie-Ukraine?
Ça continue de brasser, mais là, ce qui est intéressant, c'est que Vladimir Poutine vient de faire un gros cadeau à Donald Trump. Il aurait personnellement gracié un ex-Marines américain qui était détenu en Russie depuis 2022. Pourquoi c'est important, ça, Max? Parce que le président américain, pour des raisons qu'on ignore, que les historiens nous dévoileront peut-être un jour, est persuadé qu'il y a une bonne relation avec Vladimir Poutine. Il est persuadé qu'il est sinon ami avec Poutine, au moins que Poutine le respecte. Le gros problème pour Trump, c'est que Poutine ne lui a à peu près rien donné. Depuis qu'il est de retour à la Maison-Blanche, il n'a pas, notamment, obtenu ce cessez-le-feu-là en Ukraine qu'il souhaite avoir. Et là, que le président russe vienne de libérer un ex-soldat américain, c'est un signe de bonne volonté qui va être et qui a été super bien accueilli par la Maison-Blanche comme une preuve que oui, Vladimir Poutine respecte le président américain et qu'on peut lui faire confiance dans un contexte où les Ukrainiens, là, depuis plusieurs semaines, ont réussi à bomber le torse. Qui a amené la guerre en Russie, c'est vrai, mais ils ont au même moment de plus en plus de misère à se défendre. Et on sait que Donald Trump n'aime pas les perdants ou tous ceux qui peuvent avoir une apparence d'être des perdants. Donc, qu'on ait le cadeau de Poutine, en quelque sorte, dans le même contexte où l'Ukraine a de la misère à se défendre, ça augure pas bien pour les Ukrainiens qui ont quand même envoyé de nouvelles propositions de cesser le feu aux médiateurs américains.
Et aux États-Unis, pour finir, tu voulais me parler de la primaire démocrate au Wisconsin où on a eu une pas pire surprise.
Oui, en fait, le Parti démocrate est dans une genre de guerre fratricide depuis plusieurs mois. On ne sait pas trop si on veut être à gauche très progressiste ou si on veut être plus centriste. Bon, c'est cette lutte-là qui s'est rejouée hier au Wisconsin. Le candidat de l'establishment a gagné, mais avec comme quelques dixièmes de pourcentage de plus que la candidate plus progressiste. Mais ce dont je vais te parler par rapport à ça, Max, c'est à quel point être de gauche ou d'extrême gauche, ça a quand même changé aux États-Unis dans les dernières années. Replace-toi en 2020. Où les gros enjeux, c'était l'équité raciale, on parlait même d'abolir Thanksgiving, de définancer la police. Donc, on avait une gauche plus woke. Okay? Puis être d'extrême-gauche, c'était être woke, s'intéresser aux enjeux identitaires. Aujourd'hui, ça a changé. Le message des très progressistes aux États-Unis, il est rendu beaucoup plus économique. On parle du coût de la vie, de garderie, de santé, d'assurance maladie, de choses comme ça. On revient au plus près des considérations première des électeurs. Et ça, c'est intéressant parce que là, il y a peut-être une chance d'avoir un message qui va résonner. Et dans les faits, on le voit durant les primaires, c'est jamais des victoires décisives de l'establishment ou des partis plus progressistes. Il y a vraiment une lutte à deux ici. Et ça va être intéressant de voir quel message le Parti démocrate choisit finalement pour les campagnes plus générales des midterms.
Sans s'étirer là-dessus, tu l'as dit, les midterms approchent. Ce qui veut dire, veut pas, c'est qu'on arrive à la moitié du mandat. C'est littéralement la définition. Ce qui veut dire qu'après ça, ben, il va rester une moitié. Puis après ça, ben, on va avoir une autre campagne présidentielle. Du côté des Républicains, on ne sait pas qui sera là. Ce sera probablement J.D. Vance. Du côté des démocrates, y a-tu quelqu'un qui commence à sortir du lot ou on va encore se ramasser que c'est pas clair puis qu'on va avoir quelqu'un quasiment par défaut?
Mais là, on ne sait pas encore. Il y a plusieurs candidats pressentis du côté démocrate. Moi, ce qui me fascine, c'est que Kamala Harris considérait sérieusement de se lancer à nouveau alors qu'elle a perdu, et alors on le sait, elle a perdu contre Donald Trump, et elle aurait le soutien de certains démocrates influents. Et ça, si ça se concrétise, Max, ça veut dire qu'on a un parti démocrate qui est toujours pas capable de faire son post-mortem sur l'élection de 2024, qui ne comprend pas pourquoi ils ont perdu. Ce qu'il faut au Parti démocrate, c'est probablement un candidat qui sort de l'establishment, qui n'est pas entaché par l'historique du parti et qui aurait un charisme suffisant pour incarner le pendant populiste de gauche au populisme de droite de Donald Trump. Parce que n'allons pas oublier que Trump n'a pas seulement été élu parce que c'est un républicain, il a surtout été élu parce qu'il s'opposait aux fameuses élites de Washington. Les démocrates doivent être capables de répondre à ça et c'est pas en reprenant un candidat de l'establishment qu'ils vont y parvenir.
Georges Mercier, analyste politique, un gros merci, toujours le fun. On se reparle demain 10h40.
À demain, mon ami.
Salut, Georges Mercier, le meilleur analyste politique, toujours le fun, puis plaisant aussi de parler à quelqu'un qui n'est pas nécessairement, tu sais, oui, d'habitude, on le, en guillemets, spécialise en politique internationale, puis, mais là, c'est le fun d'avoir le temps de parler de politique fédérale, provinciale et, là, vous l'avez vu, des dossiers internationaux également. Un vrai homme très polyvalent. Au retour, Audrey Pinchot est là pour l'Open Mic. On jase avec Roch Therrien, président de Neuro Performa, qui est une clinique spécialisée en biofeedback et neurofeedback. Puis, demandez-moi pas qu'est-ce que ça fait ça, je le sais pas trop. Il y a un peu là-dessus à matin, ça a l'air fascinant, ça a l'air intéressant. Fait que vous écouterez ça. Le point.